Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec Max et Mélanie.
Et bonjour, aujourd'hui, vous allez pas me croire, j'ai eu une idée.
Wow.
Eh ouais. Alors je me suis dit, je vais l'envoyer valser sur Radio Escapade.
Ah, bien joué. Wow.
Une idée pour conclure.
Non.
Si, si, c'est, bah, c'est le sujet, non?
Ah bon? Bah oui, mais...
Et il y a quelques émissions, c'était la fin du monde.
Oui, c'est exact.
Vous voyez où je veux en venir?
Non.
Non, pas trop, non.
Jean-Claude Duss m'a parlé dans mes rêves, mes amis.
Oh, punaise.
Oh, une apparition, quoi.
Je sens que je vais conclure.
Oh, punaise.
On sait jamais.
Bah,
quoi,
je... Oui, je sais pas, mais je vais conclure sur un malentendu. Et sans implication. Appelez-moi au téléphone de Radio Escapade et on se fait une fin du monde en amoureux. Promis. Bonjour. On vient faire une interview.
Mais quoi? C'est pour Radio Escapade, une radio locale. On a une émission et on fait des micro-trottoirs et on pose une question aux personnes que l'on rencontre dans la rue. Et la question du moment, c'est peut-on trouver l'amour sans application? Et on se pose la question et du coup on vient...
Ah, mais moi je suis déjà... J'ai l'amour, ça veut dire trouver à quelqu'un.
Oui,
l'amour.
Voilà.
Mais moi ça. Je suis déjà...
D'accord. Et tu l'as rencontré avec une application ou sans application?
Ah non, non, surtout pas. Moi j'ai rencontré en vrai, en face de moi.
Ah, ok.
Voilà. Attends, deux minutes, juste il y a...
Parce que moi j'ai fait les marchés.
Ok.
J'ai rencontré au marché, donc
d'accord. Donc tu l'as rencontré au marché.
Oui.
Cool.
Et voilà.
La petite pause syndicale.
Attends, non, pas de petite pause, on va pas vous autoriser.
Quoi?
On peut s'asseoir avec vous?
Non.
vous si. Voulez pas vous lever avec nous?
Mais si.
Pas dis donc, t'es grande.
Bah, je suis normale.
Attends, je vais me mettre sur le trottoir où on... Enfin, il faut qu'on trouve un truc là.
Ah, sinon, je peux faire ça.
Voilà, super. C'est une bonne hauteur pour le micro.
Alors, c'est quoi, interview?
Ouais, interview. Ouais.
Pour Radio Escapade.
Mais par rapport à quoi?
L'amour.
Ouais.
L'amour est un bouquet de violettes. L'amour. Il faut dire quoi? On a une interview.
Alors, oui, ben voilà. Ben, la question du moment qu'on se pose avec Max, c'est est-ce qu'on peut encore trouver l'amour sans application?
Moi, je me la pose pas, moi.
Bah oui, parce que moi j'ai trouvé sans application. Ah ouais.
Et
ça
ouais.
Existe, mais c'était sport. C'est en faisant le sport, moi.
Ouais, faut sortir.
Donc voilà, c'est par des connaissances, quoi. C'est pas. Mais moi j'étais inscrite sur des sites avant.
Ah, d'accord. Donc t'as trouvé l'amour par-ci, et... par-là, l'amour entre guillemets.
Avant, oui, je butinais avec les sites.
Ok.
Mais depuis que je suis ici, parce que quand j'étais à Caen, j'avais pas besoin de site. Je pouvais sortir. Bah ici, c'est pas pareil. Moi avant, je sortais toute seule dans les bars. Je rentrais jamais toute seule, quoi. Alors qu'ici, il n'y a pas de mouvement, c'est pas une grande ville. Donc du coup, quand je suis arrivée là, bah, je me suis inscrite sur les sites pour rencontrer des gens, évidemment. Et de fil en aiguille, voilà, quoi.
Donc ça t'a servi quand même à un moment donné pour rencontrer du monde, pour
oui.
Pouvoir
quand
créer
même
des liens.
Voilà, créer des liens, ouais. Plus d'amitié au début, d'accord. Et puis plus c'est affinité. Mais à l'origine, ouais. C'était surtout pour découvrir des gens de Montpellier, du coin.
Ouais, ça existe.
C'est possible.
Ok.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui passent par les applications. Ouais, c'est, hein. C'est devenu quand même un phénomène de mode. Un
et
peu.
Oui, c'est pour ça que je me posais la question. C'est que le phénomène de mode est quand même assez énorme. Mmh. Il y a beaucoup de gens autour de
mais
moi.
Mais parce que les gens n'ont pas le temps. Ils prennent pas le temps. Ils n'ont plus le temps de sortir. La vie, elle est tellement speed.
Est-ce qu'ils n'ont plus le temps ou est-ce qu'ils prennent plus le temps? Parce que je crois pas
non,
qu'elle soit plus speed
prennent...
qu'avant, la vie. En
ouais,
fait.
Mais je pense que déjà, oui, les gens, ils prennent pas le temps. Ils s'accordent pas le temps qu'ils devraient avoir. Mais il y a aussi le phénomène, bah, tu vois, là, genre, on bosse, tu rentres du boulot, t'as pas forcément envie d'aller, à part le week-end, dans ta semaine, t'as pas vraiment de temps, quoi. C'est vrai que. Il y a le côté financier aussi, tu peux pas non plus sortir faire la banque tout le temps. Ou, Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens prennent peut-être moins le temps de sortir et c'est plus facile sur l'ordinateur,
ouais.
Quand t'es chez toi, calé, posé. Pour rencontrer des gens que de sortir. Moi, je préfère sortir,
ouais.
Personnellement. Mais c'est vrai que, genre en plein hiver ici, bah, les sites, c'était pratique, moi. Parce que tu sors pas, t'es chez toi, t'es calé au chaud, tu chattes. Voilà, quoi.
Ok. Ben, merci de ton témoignage.
Mais avec plaisir. Bon, c'est quand, ça passe à quelle heure que j'écoute quand même. Tu me renverras un petit message pour me dire.
Ok, ça marche.
Que, ouais. Que je m'entende.
Je te verrai tout ça.
Ouais, ouais, ok. Alors...
Thank you.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land?
C'était The End des Doors, et maintenant c'est Jean-Michel, pas l'archange.
Salut les loulous, Tassika tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais.
Ouais, j'ai rien entendu.
Ouais.
C'est mieux.
Salut Jean-Michel.
Salut, aujourd'hui c'est l'avant-dernière rubrique sur le cinquantenaire du groupe Ange. En effet, il nous reste deux émissions avec celle-ci pour vous parler des albums studio restants. Et ainsi finir la première saison de Faites Valser vos idées. Aujourd'hui, nous survolerons les 5 albums suivants, les 5 albums studio suivants. Puis, dans la dernière émission du mois de juin, j'aborderai les 4 albums studio restants, qui ne sont pas du tout une finalité, puisque normalement, scoop, un album du nom de Cunégonde devrait sortir avant la fin de l'année 2024, sinon en 2025. Mais d'abord... En 92, sortait l'album Les larmes du Dalaï Lama.
Est-ce que la poésie, c'est de la politique?
En 99, l'album La voiture à eau.
Ah bon? La poésie, c'est de la politique?
En 2001, l'album Culinaire Lingus.
La poétique, ça adoucit la vie.
En 2005, l'album Point d'interrogation.
Oui, la poétique, c'est de la politique.
En 2007, l'album Souffleur de verre.
Pas un con pour sauver le monde, pas un dieu pour sauver la vie. Et merde à la guerre!
Thank you.
C'était Les larmes du Dalai Lama, extrait de l'album éponyme Les larmes du Dalai Lama de 1992. À toi, Mélanie.
Salut à tous. Salut à tous. Salut Jean-Claude.
Salut Mélanie.
Salut. On diffuse aujourd'hui nos derniers micro-totoirs sur le thème de « Peut-on trouver l'amour sans application, mais aussi sans malentendu et sans fin du monde si possible ?» Un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous ont prêté leur voix, ouvert leur cœur et exprimé leurs pensées. À tous les audacieux et les plus timides qui ont quand même eu le courage de répondre à nos questions, parfois sérieuses, parfois un peu décalées. Nous avons pris beaucoup de plaisir à venir à votre rencontre et vous découvrir juste un tout petit peu. Non, reste habillé s'il te plaît Jean-Claude, c'est pas encore la fin du monde.
Attends, je démarre le truc. Et je travaille pour Radio Escapade. Merde, je téléphone à ce moment-là. Ouais, je réponds pas.
C'est ton application ?
C'est mon application. Donc mon téléphone sonne. En fait, on fait des interviews sur l'amour. On demande aux gens, est-il possible de trouver l'amour sans application ?
Heureusement que oui. Surtout que moi, je suis de l'ancienne génération, donc... Ouais. Heureusement que oui, j'espère.
Toi, t'as jamais utilisé d'application ?
Et non.
T'en utilises toujours pas ? En cachette ?
Non. Pas en cachette, en non, cachette. Plus. Non plus.
On te reconnaîtra pas, je mets un faux nom, tu peux dire des trucs. Vas-y, nous on cherche des trucs un peu crades et tout, on n'arrive pas à trouver les gens,
ben
et
non,
ils sont
alors,
tous propres et
ils
tout.
Ils sont tous propres, non mais moi non.
Personne ne nous dit, moi j'utilise ça pour baiser tous les jours, changer
de mec. Moi ça fait 20 ans que je suis mon mari, donc tu vois que je... Non, pas de réseau.
Ça n'existait même pas à l'époque, non ?
Mais bien sûr que non.
Il n'y avait pas de téléphone.
Non.
Toi non plus, t'as pas de pratique bizarre, croustillante à nous sortir, rien.
Moi j'ai déjà utilisé des applications, mais...
Ah.
Et du coup ton expérience là-dessus, ça a été quoi ?
La facilité.
Ouais.
Par rapport à aborder quelqu'un, c'est vrai que c'est... T'es derrière un écran et tout, c'est un peu...
C'est plus sécurisant ?
Je dirais pas ça, après j'en utilise plus depuis des années, hein. Enfin...
Ça t'a apporté quoi, du coup, d'avoir cet écran qui... entre la personne et toi ?
Ben, ça m'a apporté quoi ? Je sais pas... Disons que c'est... Il y a un côté, effectivement, simplicité, je trouve, où t'as pas besoin de sortir, de rencontrer des gens en soirée ou quoi, c'est vraiment... tu peux discuter avec quelqu'un et...
C'est plus direct ?
C'est plus direct, je pense. Après, c'est moins... C'est beaucoup moins
magique.
C'est beaucoup moins magique. Et l'échange est différent, ouais.
Bah oui.
Ouais, ça fait moins rêver. Moi, je sais pas.
Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup moins rêver, mais bon.
Hein, quand tu dois raconter ton histoire d'amour, bah, on s'est rencontrés sur une appli. Moi, j'ai payé 30 euros, du coup, elle m'a mis une étoile.
Oui, mais ça peut être beau aussi, parce qu'on a des témoignages. Oui, ça peut être beau, mais bien sûr, moi j'en connais. C'est ça, on a des témoignages. Et où ça fonctionne super bien. Mais
même pour des gens, je pense, timides ou quoi, ou qui ont du mal à aller vers les autres et tout, à mon avis, c'est un...
Ben, c'est sûr que c'est plus facile. Oui, c'est pour ça que je parlais de sécurisant au début. Ouais.
Oui,
pour les personnes un peu plus timides.
C'est sûr.
Ou autres.
Ouais. Mais moi, comme je suis pas timide, je suis pas.
Tu vas, toi. Ouais, de toute façon, ça fait 20 ans que t'es
avec toi.
C'est ça.
Donc, je crois qu'il y a un côté hyper addictif à ça, mais c'est un peu comme toutes les applications, même les réseaux sociaux, Facebook et tous les trucs. C'est que plus t'y vas et plus t'as envie d'y aller et plus et ça plus te bouffe ton temps et ton...
Que t'es dans l'engrenage et plus tu restes
c'est
dessus.
Ça. Et moins tu vois de gens
en vrai,
et moins tu sors.
Ouais. Alors qu'il y a plein d'autres solutions. Comme faire des interviews, je veux dire.
Mais ouais.
Rencontrer des gens. Et si ça vous dit, on se fait un rendez-vous tous les trois.
Hein. Parfait.
On sait jamais ce qui peut arriver. On veut dire.
Un coup, mais voilà. Et
c'est la vie,
elle
ça.
Elle est mariée,
beau.
Elle t'a dit.
Bah, ouais. Mais.
Oh, je sais, Max. Ça fait 15 ans qu'on se connaît.
C'est pour faire des rencontres. De quoi tu parles ?
Mais oui.
Enfin.
Quand même. Mais... Ben, merci à vous.
Avec plaisir.
Avec plaisir. On n'a pas. Moi, il n'y a rien de... Mais bon, voilà, je pense que c'est plus les jeunes. Moi, j'ai 54 ans, ça n'existait pas tout ça, quoi. Après, c'est vrai que peut-être à mon âge, si tu te sépares et tout, peut-être que c'est une facilité pour...
Il y a des personnes aussi de 60, 70 ans.
Oui, oui, je veux bien croire.
Alors qu'ils n'utilisent pas les applis. Je pense qu'il doit y avoir des applications différentes pour les jeunes et pour les personnes un peu plus âgées. Mais je pense qu'il doit y en avoir. On n'a pas encore tombé
dessus. Mais si ça fait longtemps que tu étais avec quelqu'un et que là tu te retrouves seule, tu as pas les mêmes connaissances et tout, donc ouais. Peut-être que c'est la facilité de se tourner vers ça.
Renouveler un réseau.
Bien sûr.
Mmh. Ouais, c'est ça ou le club de Scrabble, hein, de toute façon. Hein.
Ouais, voilà,
ou l'auto du village. Ça, quoi, donc,
c'est dur. Hein. C'est au loto
et
du village.
Sait,
hein. L'amour,
après
l'auto
avoir
du
gagné
village.
Le cuisseau de Jean Bonneau, tu peux très bien rencontrer l'amour.
Ouais,
on
ouais.
Sait pas.
Bon, ben, c'est
ouais.
Bien.
Allez, une petite tranche de viande pour madame, sous cellophane s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va finir là-dessus.
C'était It's You de Toots and the Metals. À toi Jean-Pierre.
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est un homme au talent exceptionnel de diplomate qui a traversé plus de 50 ans d'histoire politique, ponctué de troubles majeurs dont la Révolution, et il s'en est toujours sorti brillamment, sans égratignure. Pourtant, son histoire n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Handicapé dès sa naissance en 1754 par un pied bot, il en souffrira pendant toute son enfance, victime des railleries de ses camarades. Talleyrand sera contraint par ses parents, à qui il en voudra, d'embrasser une carrière ecclésiastique, alors qu'il était destiné à l'armée. Mais son handicap l'empêche de monter à cheval et de porter l'épée. Il entrera au séminaire à l'âge de 16 ans, ce qui le barbera plus qu'autre chose. Malgré cela, il obtiendra tout de même un baccalauréat en théologie, sans doute bien aidé par un de ses oncles archevêques. Mais voilà, Talleyrand et l'Église, ça ne colle pas. D'abord parce que c'est un homme qui aime l'argent. La pauvreté, ce n'est pas pour lui. Et la chasteté, encore moins, puisque lors de ses études, il n'hésitera pas à se promener avec ses conquêtes tout près du séminaire. En 1780, et grâce à son oncle, il sera chargé de défendre les biens de l'Église contre la monarchie, ce qui lui permettra d'avoir une très bonne connaissance des biens du clergé. Mais Talleyrand, à ce poste, a été un mauvais choix pour l'Église. En 1788, il sera nommé évêque d'Autun par Louis XVI, une nomination qui permettra d'éloigner de Paris cet homme vu comme un intrigant. Enfin, c'est du moins ce que croit Louis XVI, qui se mettra le doigt dans l'œil car en réalité, notre homme se passionne pour ce qui se passe à Paris et ne sera jamais dans son diocèse. En cette fin d'année 1788, les prémices de la Révolution sont là. Surnommé le diable boiteux, Talleyrand sent le vent tourner. La colère montée saisit sa chance. Il sera élu député du clergé et un an plus tard, juste avant que la Révolution n'éclate. Et c'est cette même année que, à la demande des députés du tiers-état, que les impôts seront appliqués à la noblesse et au clergé. Le clergé qui laissera tomber peu après pour rejoindre les députés du tiers-état. Au moment de l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il participera, il proposera même la réquisition des biens de l'Église pour enflouer les caisses de l'État. Une décision qui lui vaudra de vives critiques de son ancienne famille du clergé, qui ne lui pardonnera pas cette trahison suprême. Car Talleyrand, s'il est député, est aussi et surtout évêque. En 1792, l'atmosphère est étouffante. Et pressentant que la situation va se dégrader encore, Talleyrand sera envoyé à Londres sur sa demande pour exécuter une mission dont il était à l'initiative. Ainsi, il s'échappera de France sans passer pour un fuyard. Très observateur, il avait parfaitement anticipé le vent et la direction du boulet. Car peu de temps après son départ, le scandale de l'armoire de fer éclate. Des documents cachés dans la chambre du couple royal sont découverts, révélant ses liens troubles avec le roi et avec d'autres personnages. Une découverte qui signe son arrêt de mort. Mais en ayant filé à l'anglaise à Londres, il sauvera sa tête, contrairement à celle du roi, de la reine et de milliers d'autres personnes décapitées lors de la terreur. En 1794, il partira en Amérique du Nord pour chercher fortune, sans y parvenir. Et puis, il a le mal du pays. Mais s'il revient, il sera condamné à mort. Il s'arrange alors, par l'intermédiaire d'une relation féminine bien placée, pour faire annuler son décret d'accusation. Il peut ainsi revenir en France en 1796. Et c'est grâce à cette même relation qu'il obtiendra le poste de ministre des Affaires extérieures un an plus tard. Ce sera pour lui aussi l'occasion de s'enrichir grâce à des pots de vin en provenance de pays étrangers. Entre en scène un général prometteur, Bonaparte, qui revient de la campagne d'Égypte. Talleyrand, qui faisait partie du directoire, dira plus tard que la meilleure façon de faire tomber un gouvernement, c'est d'en faire partie. Et il s'arrangera donc pour faire tomber le directoire, en fomentant un coup d'État, le fameux 18 Brumaire. Napoléon prend le pouvoir, mais il est jugé comme un rustre et il est mal vu en Europe. Il s'appuie sur son ministre qui organise des réceptions avec des diplomates étrangers pour redorer son blason et celui du pays. Ainsi, pendant les premières années, tout se passe à merveille entre les deux hommes. Mais cela ne va pas durer, car l'ambition de Napoléon et la diplomatie de Talleyrand ne vont pas ensemble. Ce dernier reproche à Napoléon son côté va-t-en-guerre. Napoléon finit par se méfier de lui, car il le soupçonne de jouer double jeu. Et il a raison. En septembre 1808, il conseillera au tsar de Russie de ne pas s'allier avec la France contre l'Angleterre. Quand Napoléon l'apprend, il entre dans une colère noire et couvre d'insultes Talleyrand. Il pourrait d'ailleurs le faire condamner à mort pour cette trahison supplémentaire. Sauf que Talleyrand, aussi stratège que multitâche, est aussi chargé de mener le divorce de Napoléon et son remariage avec une Autrichienne. Alors que voulez-vous, la diplomatie l'emporte, et le diable boiteux sauvera sa tête une fois de plus. Cependant, Talleyrand sent le vent tourner, encore une fois. Pour lui, Napoléon est bientôt fini. Il sera tôt ou tard condamné à la défaite. Vient la campagne de Russie qui est un désastre pour les soldats, empêtrés dans la neige et morts de froid. En 1814, après la défaite française contre une coalition de pays, le tsar et le roi de Prusse entrent dans Paris et ils seront accueillis par Talleyrand qui prépare déjà le coup d'après. Napoléon défait est exilé sur l'île d'Elbe alors que son illustre ministre se retrouvera un temps à la tête du pays. Mais la France étant vaincue, il faut redessiner ses frontières et celles de l'Europe. C'est le congrès de Vienne. Et le génie diplomatique du diable boiteux se manifeste une fois de plus. Non seulement il impose la présence de la France aux négociations, il impose qu'elle soit traitée d'égal à égal alors qu'elle est battue, mais en plus il évitera sa mise sous tutelle et son morcellement, et la France retrouvera ses frontières d'avant l'ère napoléonienne. Génial, non ? Louis XVIII, qui succède à son frère Louis XVI, se verra dire par Talleyrand « Je porte malheur au gouvernement qui me néglige ». Ça ressemble quand même fortement à une menace. Mais alors que le congrès de Vienne continue, la stupeur s'empare de Paris. Napoléon revient pour reprendre le pouvoir. Mais Talleyrand, qui ne panique jamais, refuse de le rejoindre car il ne croit pas à son retour. Et pour une fois de plus, et une fois de plus, il a raison. Le retour ne durera en effet que 100 jours et se finira par la défaite de Waterloo. Napoléon sera envoyé sur l'île de Sainte-Hélène, d'où il ne reviendra jamais. Après la mort de Louis XVIII, c'est son frère Charles X qui prendra le pouvoir. Ce dernier, trop proche des royalistes, provoquera une révolution qui verra arriver Louis-Philippe Ier au pouvoir en 1830. À 76 ans, Talleyrand refusera le poste de ministre des Affaires étrangères et préférera être envoyé en Angleterre pour œuvrer en faveur de l'alliance et de l'entente entre les deux pays. À 84 ans, le diable boiteux est sur son lit de mort. La légende raconte qu'il dira au roi « Sire, je souffre comme un damné. » Et le roi qui répond « Ah, déjà ?» Il aura été au sommet, aura tout connu. Il aura échappé plusieurs fois à la mort. Il aura déjoué tous les pièges, fréquenté les plus grands, et se sera parfois opposé à eux. Il aura négocié à la manière d'un grand maître d'échecs, comme au congrès de Vienne. Il aura manipulé et trahi bien des individus, mais jamais les intérêts supérieurs de la France. On ne peut pas en dire autant au sujet des élites politiques contemporaines.
Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie.
Non filé.
Comment ?
Non filé. Mes bas de soie ne sont pas filés.
Mais oui, c'est vrai. Vos bas de soie sont toujours impeccables.
Vous voyez quand vous voulez.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
C'était l'opportuniste de Jacques Dutronc. À toi Jean-Michel.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges et au Vigan. Sur Internet, dans le monde entier et dans tout l'univers connu, sur radioescapades.org.
À chacun sa vie. À chacun son lit, à chacun sa merde, à chacun sa rue, à chacun son cul, à chacun son herbe.
Jusqu'à ce que la police tape, que la milice frappe. Actualité, actualité. Encore un bébé vendu au marché noir. Encore un été enchâssé, croisé, noir. On n'a pas idée d'être aussi taré.
Mais quelque chose me rassure. Si on va droit dans le mur, je ne serai pas le seul à me prendre dans la gueule tous les boomerangs du monde.
À chacun son ex, à chacun son sexe, à chacun ses faiblesses, à chacun sa guerre, à chacun sa terre, à chacun son stress.
Le monsieur sur madame tape et la police zappe. Actualité, actualité, un glacier qui fond, un curé pédophile, un volcan qui gronde, tsunami sur les îles, à chaque seconde, un enfant qui tombe.
chacun sa vie, à chacun son lit, à chacun sa merde. À chacun sa rue, à chacun son cul, à chacun son herbe. Jusqu'à ce que la police tape, que la milice frappe. Actualité, actualité, encore un bébé pendu au marché noir. Encore un été en chasse et croisée noire. On n'a pas idée d'être aussi taré, mais quelque chose me rassure. Si l'on va droit dans le mur, je ne serai pas seul à me prendre dans la gueule tous les bras du monde. Son ex, à chacun son sexe, chacun ses faiblesses. À chacun sa guerre, à chacun sa terre, à chacun son stress. Le monsieur sur madame tape, et la police zappe. Actualité, actualité, un glacier qui fond, un vieux pédophile. Volcan qui ronde, tsunami sur les îles. À chaque seconde, un enfant qui tombe. Mais quelque chose me rassure. Si on va droit dans le mur, je ne serai pas seul à me prendre dans la gueule tous les moments du monde. À chacun son train, à chacun son destin,
à chacun son étoile.
On ne sait pas bien que sera demain, mais quelque chose me rassure. Si l'on va droit dans le mur, je ne serai pas seul à me prendre dans la gueule tous les bras du monde. À chacun sa vie, à chacun son lit, à chacun sa merde, jusqu'à ce que la police tape, que la milice frappe. Actualité, actualité, actualité.
C'était tous les boomerangs du monde de l'album Souffleur de verre de 2007. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver pratiquement tous les albums de l'Ange en concert ou en studio sur YouTube, en écoute gratuite bien sûr. tapez simplement Ange album complet. Si vous cherchez encore plus d'informations sur Ange, les concerts à venir, l'actualité du groupe, tapez Un pied dans la marge sur Internet, c'est l'association qui s'occupe de la promo du groupe. Vous saurez tous les renseignements. À toi Lydia.
Bonjour tout le monde. Et si on s'engueulait ? On le sait, il y a des sujets qui mettent le feu aux poudres. Vous savez, les sujets qu'on évite le soir de Noël, mais qui arrivent inévitablement sur la table parce qu'on a trop picolé. Aujourd'hui, je vais vous parler de J.K. Rowling. N'importe quoi, comment on peut s'engueuler en parlant de l'autrice d'Harry Potter ? Peut-être qu'on a des divergences d'opinion sur quelle est la meilleure saga ? Le meilleur tome ? Non, non, on peut très facilement s'engueuler avec J.K. Rowling, il suffit de dire qu'une femme transsexuelle n'est pas une femme. Et c'est ce que J.K. Rowling s'évertue à dire. Du coup, elle est fâchée avec Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Hermione et la communauté LGBTQ+. Pas toute la communauté, mais beaucoup. J.K. Rowling est-elle véritablement transphobe ? Tout a commencé par une série de tweets reçus par J.K. du genre « Une femme transsexuelle est une femme », répétée après moi. Ce à quoi J.K. a répondu d'un laconique « non ». Un autre message qu'elle a reçu parlait de personnes ayant leurs règles. Ce à quoi elle a rétorqué « Il me semble que l'on avait un mot pour les décrire autrefois. Fume, fime, femme, ah, femme ». Ce genre de position lui a valu les foudres de la communauté LGBTQ+. De nombreuses vedettes. Elle a reçu des menaces de boycott, par exemple la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy, inspiré de l'univers de la saga Harry Potter, s'est accompagné de centaines de messages appelant au boycott. Si tu achètes Hogwarts Legacy, tu es transphobe. Si tu penses que tu ne l'es pas, que tu l'achètes quand même, tu es stupide et transphobe. Alors je vous rassure, ou pas, ça dépend comment vous vous positionnez, ce jeu a été le plus vendu l'année de sa sortie. Donc ces positions indiquent-elles vraiment que J.K. est transphobe ? Alors elle vous répondra que non, qu'elle est féministe et que l'activisme de la communauté transgenre tend à effacer certains droits des femmes non transgenres. Ainsi, les femmes transgenres sont de plus en plus acceptées dans les sports féminins, notamment le cyclisme. Alors qu'elle, qui elle, garde un avantage physique, force, vitesse, plus grande capacité pulmonaire, qui perdure après la transition. J.K. marque des points. Et c'est vrai que l'on voit apparaître des sujets auxquels on ne pensait pas auparavant. Par exemple, au Royaume-Uni, un violeur qui a commencé sa transition pendant son procès s'est retrouvé dans une prison pour femmes alors qu'il avait toujours son service 3 pièces. Devinez ce qu'il s'est passé ! Il a agressé d'autres femmes. Retour à la case procès et la case prison pour hommes, pour il, elle, je ne sais plus trop comment on doit l'appeler. Un autre violeur s'est retrouvé dans la même position. Pendant son procès, il a commencé sa transition. Le juge l'appelait une femme. L'avocat de la défense disait « Mais c'est une femme ou c'est un homme ? Vous jugez l'homme d'avant, mais maintenant c'est une femme !» Ça a fait beaucoup de débats. J.K. a dit « Les lieux pour les femmes ne sont plus sacrés. Ça ne va pas. Donc, une femme transsexuelle n'est pas une femme. » Bon, alors, la police écossaise et les juges ont décidé qu'un homme qui devient une femme mais qui a fait des viols, par exemple, ou un féminicide, ne se retrouvera pas dans une prison pour femmes. Ce qui pose aussi des problèmes. Parce que, voilà, c'est plus vraiment un homme non plus. Oh, c'est très compliqué tout ça. Bon, et je dois dire que moi-même, j'ai fini par me poser des questions. Quelle est ma vraie position sur la question transgenre ? Surtout, j'ai vu un journaliste demander à un ministre en Angleterre si une personne a un pénis, peut-elle être une femme ? Ce à quoi, dans ma tête, j'ai répondu « bah non ». Mais le ministre, il a dit « bah oui, si elle... » il, elle, iel, ciel, se pense comme tel, c'est que c'est une femme. Finalement, c'est pratique, ces prénoms inclusifs. Mince, ça se trouve, je suis transphobe et je le sais même pas. Non, mais je suis sérieuse. En réalité, pour moi, tant que tu n'as pas accompli toute ta transition, tu es une personne transgenre. Après, si tu as tous les attributs, bien sûr, on ne va pas t'implanter un utérus, par exemple, tuer une femme. Sur ce point, je diffère de J.K. Mais ça se trouve, c'est transphobe. Tout de même, on finit par s'interroger. Par exemple, j'ai toujours su que j'étais une femme. Et j'ai appris avec toutes ces histoires que j'étais une femme cisgenre. C'est-à-dire une personne dont le genre qu'on lui a attribué à la naissance est le même que celui par lequel elle se définit. Utiliser le mot cisgenre permet de rendre visibles les personnes qui n'entrent pas dans cette catégorie. Mais du coup, si on fait une différence entre cisgenre et les personnes qui n'entrent pas dans cette catégorie, c'est bien qu'il y a une différence, non ? J'aurais dû appeler cette chronique mal de tête. J.K. Rowling a eu le tort aussi, pour certains, de se battre contre un texte de loi écossaise qui réduit la période pendant laquelle un demandeur doit vivre dans son genre acquis et fait passer à 16 ans, contre 18 auparavant, l'âge minimal requis pour demander un certificat de reconnaissance de genre. Le texte introduit par le gouvernement indépendantiste supprime aussi l'exigence d'un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande de ce certificat de reconnaissance de genre. Et en ce qui concerne la loi écossaise qu'elle a vivement critiquée, elle se sent actuellement revendiquée dans sa position, car la NHS, National Healthcare Service, l'espèce de sécurité sociale du Royaume-Uni, vient de sortir un rapport sur les transitions effectuées avant la majorité, voire même avant la puberté. Là aussi, elle était fermement contre l'idée de modification hormonale avant la puberté. Pour résumer, ce rapport recommande de ne pas autoriser la transition médicale jusqu'à ce qu'un patient ait atteint la vingtaine, préconisant plutôt de fournir un soutien thérapeutique holistique et sans hâte aux patients de moins de 25 ans, au motif que les cliniciens sont incapables de déterminer avec certitude que les enfants et les jeunes continueront à avoir une identité trans durable. Le rapport final recommande en outre que les jeunes adultes en quête de transition entre 17 et 25 ans soient envoyés vers un service de suivi plutôt que d'être autorisés à accéder à une clinique pour adultes. L'Écosse, toujours elle, vient de mettre en application une nouvelle loi sur les incitations à la haine. Votée en 2021, elle vise à actualiser la législation en matière d'atteinte aux personnes en raison de leur âge, handicap, orientation sexuelle, confession religieuse, l'identité transgenre ou intersexe. Ses détracteurs craignent surtout que le texte altère la liberté d'expression. Dans le détail, toute incitation à la haine, qu'elle soit verbale, physique ou écrite, qu'elle ait lieu en ligne, en public ou dans la sphère privée, peut désormais être considérée comme un crime, passible d'une peine allant jusqu'à 7 ans de prison. Et voilà que J.K. revient sur le devant de la scène avec cette loi qu'elle considère menaçante pour la liberté d'expression et de croyance. Si en Écosse, la description exacte du sexe biologique est considérée comme un délit. Pour illustrer son propos, elle a mis plusieurs noms de personnes transsexuelles connues et a indiqué que ces personnes étaient des hommes. Ce qui a valu à la police écossaise de recevoir plusieurs plaintes contre J.K. Bon, la police a fait une enquête et a estimé qu'il n'y avait pas de matière à arrêter J.K. Rowling. Alors, elle est transphobe ou elle n'est pas transforme ? Bon, soyons clairs, J.K. fait une différence entre les femmes biologiques et les femmes transgenres qui ont transitionné. Je vais la citer. Certaines personnes pensent fermement qu'elles ne sont pas nées dans la classe sexuelle qui leur a été assignée. La dysphorie de genre est une condition réelle et très douloureuse et je ne ressens que de la sympathie pour tous ceux qui en souffrent. Je veux que ces personnes se sentent libres de se présenter comme elles le souhaitent, de s'habiller selon leurs désirs et je veux qu'elles aient exactement les mêmes droits en matière de logement, d'emploi, de sécurité personnelle comme n'importe quel citoyen. Mais je ne crois pas que les opérations chirurgicales et les hormones transforment littéralement une personne en sexe opposé. Voilà, voilà, quelle est exactement sa position. Personnellement, pour moi, ce n'est pas transphobe, elle n'est pas contre leurs droits. Et je trouve qu'elle a des arguments très pertinents à faire valoir, même si je trouve ses positions parfois trop radicales. Pour ma part, je n'hésiterai pas à appeler une femme transgenre une femme si elle est passée par toutes les étapes de la transition. Je ne suis pas contre les toilettes inclusives, notamment parce qu'aucune enquête n'indique que les agressions auraient subitement augmenté là où ce genre de toilettes existe depuis de nombreuses années. Alors que J.K. est fermement contre. La question que je me pose, c'est peut-on encore discuter ou avoir une divergence d'opinion sans qu'on appelle au boycott ? J'ai dû lire un paquet de déclarations de J.K. Rowling pour avoir enfin un avis à peu près clair sur le fond de sa pensée. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle dit, mais ces déclarations m'ont fait réfléchir. C'est déjà pas mal. C'est Twitter, enfin X, qu'on devrait boycotter. De courtes sentences, sans explication et sans contexte, ne permettent pas le temps de la réflexion. Mais pourtant aujourd'hui, même les journalistes, les médias qui ont de la place pour écrire de vrais textes, avec un minimum d'explication, nous infligent des tweets et entretiennent cette absence de réflexion. Et vous savez quoi ? Ça ne fait qu'entretenir la division. Cette cancel culture fonctionne sur certains aspects. Une aile d'une école qui portait le nom de J.K. Rowling a été débaptisée pour cause de transphobie de l'auteur. En réalité, sous la pression des étudiants de la dite école. J.K. Rowling n'a pas été arrêtée pour crime de haine, je vous le rappelle. D'un autre côté, la vente de ses livres ne s'est jamais aussi bien portée. Je pense que c'est à la communauté tout entière que ce genre de débat, sans débat, nuit. Et pour rappel, donner des droits à des personnes minoritaires ne vous prive, vous, d'aucun droit. Mais censurer des propos qui nous déplaisent finira par tous nous priver de notre liberté d'expression. Oh, 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 oh.
Feel safe in this bed. There are voices in my head. I've been talking to the dead, and the fear baptized me. My kingdom turned to dust, and I watched all my riches rust. Have I lost the Midas touch, or do sad eyes blind me? Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me home, and it suffocates me. I said, oh, I can't breathe, all I know. Is I forgot how to be me. Feel safe in these halls. There are bruises on the walls. There are bodies in the floors, and they breathe so loudly. I wish I could move, get up and walk right out this tomb. Do our saviors die too soon? For my sins surround me. Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me, follows me, follows me, follows me, and it suffocates me.
Hallelujah. Where is my God? Where are you? Hallelujah. Gave up the fight, a quick decision late in the night that stayed with me for all of my life. I miss you so.
C'était How to Be Me, Ren et featuring Chinchilla. Et maintenant, j'ai une petite devinette pour vous.
Ok.
Est-ce que vous savez pourquoi on dit que ça casse pas trois pattes à un canard?
Enfin, je pense que ça date de quand les poules avaient des dents.
C'est une expression que j'utilise beaucoup, mais je vois pas du tout quelle est l'origine de cette expression.
On dit bien un mouton à cinq pattes ou alors un trèfle à quatre feuilles, donc bon, pourquoi pas un canard à trois pattes?
Aucune idée, Lydia.
Alors, bon, on sait pourquoi on l'utilise, hein, c'est pour dire que ça serait vraiment extraordinaire, puisque effectivement, les canards n'ont que deux pattes, pas normalement.
Et pourquoi on ne dit pas ce serait extraordinaire, tout simplement?
Parce qu'on doit dire c'est transordinaire.
Alors, en fait, pour l'histoire des canards, c'est que, vous savez, on parlait il y a longtemps, quand les femmes cancanaient.
Ah, oh là là là.
Et racontaient tous les petits gossips et tout. Ah ouais.
Elles font plus du tout ça.
Non. Et en fait, avec les journaux, au début, les journaux, ce n'était que des feuilles de chou, comme on dit, avec que du gossip, exactement, parce que ça se vendait mieux. C'était mieux de mettre des trucs qui étaient...
Ah, et le canard, du coup, ça serait du coup le journal de canard.
Voilà. Okay. Et quand on disait « ça casse pas trois pattes à un canard », ça valait pas le coup de mettre l'info. Dans les canards de l'époque, parce que c'était pas... Alors, c'était très exagéré, c'était très mensonge. Bon, ça doit être nos tweets de maintenant.
Ouais, alors moi, j'avais toujours la vision du canard à trois pattes, un peu comme Jean-Michel.
Voilà. Enfin, et donc, on a commencé à dire... Alors, on n'est pas sûr, mais moi, je trouve que c'est la meilleure des explications, comme il n'y a pas d'explication certaine. J'ai dit, je vais choisir celle-là, elle me va. Je trouve qu'elle va bien avec le canard.
Moi, je leur donne la palme des expressions.
Voilà,
merci,
voilà.
Merci, Lydia.
C'est la chenille qui redémarre.
Prix.
C'était Faites Valser vos idées. Merci à Max, Mélanie, à Lydia, à Jean-Pierre et à moi-même. Merci à Antoine pour la réalisation. À bientôt. Bisous. Merci, bisous.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao, ciao.